Et aujourd'hui, en fait, on va lire les derniers versets du chapitre 15, puis on va entamer le chapitre 16, qui se trouve le passage, les trois chapitres, 15, 16, 17, 18. Il y a un souci avec la vidéoprojection. Les trois chapitres qu'on va parcourir, sont les trois chapitres, la distance qui se trouve entre les deux flèches rouges. Qui vont réapparaître dans un instant. Henri croit au miracle, donc on va demander à Henri de prier. Voilà, merci. Je suis prononcé ton nom. Voilà, donc entre les deux flèches, c'est là un petit peu le chemin que les Hébreux vont parcourir dans les textes qu'on va lire aujourd'hui. Alors, on va commencer par une lecture biblique, mais pour cette lecture biblique, j'ai choisi qu'on la fasse de façon un peu particulière et j'ai demandé de l'aide. Donc, j'ai demandé à André et à Marie de venir m'aider un petit peu dans la lecture. Accueillez-les. Cela leur fait pas. Donc, la lecture, c'est ce qui est écrit en haut à droite. Hein, donc, voilà, j'ai demandé à ce qu'elle soit lue dans le texte original.
Va, Yavohu Elima, Vesham, Shtem Esre et Notmaim, Veshir im Tmarim, Va Yaha Nu. Cham Al-Anaïm.
Va Isrou Mélim. Va Yavou Kol Adat Bnei Israël El Midbar Sin Asher Bein Elim Va Bein Sinai. Bahamisha Asar Yom La Chodesh Hashini Letzetam Meeretz Mitzrayim.
Va Ilonum Al Adat Bnei Israël Al Moshe Beal Aaron Ba Mis Mi-ba.
Merci, bravo. Donc c'est pas la peine qu'on relise en français, c'est bon. C'est ça. Venez au cours d'hébreu et ce sera bien. Allez, on va le lire en français. Ils arrivèrent à Élim. Là étaient 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils y campèrent près des eaux. Puis ils partirent d'Élim et arrivèrent, toute la communauté des enfants d'Israël, au désert de Sin, qui s'étend entre Élim et le Sinaï. C'était le 15e jour du 2e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Toute la communauté des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron dans ce désert. Et les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts de la main du Seigneur dans le pays d'Égypte, assis près des marmites de viande et nous rassasiant de pain, tandis que vous nous avez amenés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, pour faire mourir de faim tout ce peuple. Le Seigneur, merci de nous parler, de nous enraciner dans ta parole. Par ces textes que nous avons lus et par ce chemin que nous allons faire avec les Israélites, avec les Hébreux, pendant ce temps de partage. Amen. Donc les Israélites sortent d'Égypte, traversent, il y a ce grand miracle, il y a cette première Pâque, vous vous souvenez? L'agneau immolé, on met son sang, c'est la délivrance, c'est le premier Pessah, la première Pâque qui qui sera commémoré régulièrement tous les ans à la même période. C'est toujours le cas depuis 3500 ans. Et puis les Hébreux, ben, de l'autre côté de la mer, partent. Et ils partent conduits par Dieu. Il n'y a pas encore le Mishkan, il n'y a pas encore le tabernacle. Vous savez, ce tabernacle, cette tente où Dieu va habiter au milieu des Israélites avec la colonne de feu, la colonne de fumée. Ça, ce sera construit après le Sinaï. Donc on n'y est pas encore. On est sur un chemin où Dieu conduit Moïse, j'allais dire par son esprit. Et le premier endroit où ils arrivent, donc on voit que les Israélites rouspètent. Ils rouspètent parce que ben, l'esclavage leur semble déjà tellement lointain, et leur semble tellement lointain aussi les marmites de viande et le pain qui étaient là. Et donc ils se disent, mais qu'est-ce qu'on a dû faire dans ce désert? Un vrai désert. Et donc là, ils arrivent, ils s'approchent d'une oasis, d'une source. Donc vous imaginez la joie. Enfin, on trouve de l'eau. Et donc, au chapitre 15, verset 23, ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire de l'eau, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, qui veut dire amère en hébreu. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Donc il y a eu plein de spéculations sur qu'est-ce que c'est que ce bois qui peut transformer une eau amère en eau douce. En fait, c'est un miracle, tout simplement. Là encore, c'était un miracle. Dieu a demandé à Moïse de faire un geste de foi. Il l'a fait de la même façon quand il a levé son bâton vers la mer rouge. C'est pas le bâton de la mer, hein. C'est pas le bâton qui a ouvert la mer rouge. Hein. Mais c'est le signe de foi. Mais là, pareil, Dieu demande à Moïse de faire un geste et le miracle s'accomplit. Et puis ils repartent et ils vont un peu plus loin, toujours dans ce désert, et ils arrivent à Élim. Et Élim, c'est vraiment une source et une oasis. Parce que là, il nous est précisé qu'à Élim, il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Et ils campèrent là, près de l'eau. Donc, ils vont camper à Élim. Et c'est très surprenant, tous les commentateurs sont très surpris de voir comment Élim est décrit. Parce qu'on se dit, mais finalement, ils ont pris le temps de compter les palmiers, de compter les sources. Quel est l'intérêt pour nous, 3500 ans après, de lire qu'il y avait 12 sources et 70 palmiers? Donc il y a des discussions qui ont été durées longtemps. Certains disaient, les 12 sources, ben, tout ça, c'est, bien sûr, c'est symbolique. Donc les 12 sources nous parlent des 12 patriarches, les enfants de Jacob, les 12 patriarches. Et puis les 70 palmiers, ça nous parle peut-être des 70 anciens. Vous savez qu'il y avait 70 anciens en Israël. Mais ça n'a pas grand sens, je trouve, cette interprétation, parce que source, palmier, quel rapport entre les patriarches, les 12 patriarches, les 12 tribus et les 70 palmiers. Alors il y a une autre interprétation qui est plus répandue et qui est, à mon avis, plus juste sur l'interprétation de ce détail que nous donne la parole de Dieu, c'est que les 12 sources représentent effectivement les 12 patriarches, les 12 tribus d'Israël, donc le peuple d'Israël, qui est une source. Et 70. Alors 70, dans la Bible, il faut retourner dans la Genèse. Et 70, c'est le nombre des nations du monde. Dans la Genèse, il nous est dit que toutes les nations du monde sont représentées par 70 nations. Et donc, les 12 sources qui abreuvent 70 palmiers, ça a un peu plus de sens des 12 tribus d'Israël qui abreuvent les nations du monde. Et c'est vrai que tout ce que l'on a reçu de la part de Dieu nous est venu par les 12 sources. Le salut vient des Juifs, dira Jésus. Et ce sont ces sources qui nourrissent les 70 palmiers, et c'est tellement bon de se reposer pour les Israélites, les Hébreux, je devrais dire plutôt, à l'ombre de ces palmiers, de cette oasis. Mais le chemin ne se termine pas là. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit des Libes et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie d'Égypte. Peut-être tu peux remettre la carte de la première diapo. Donc on voit bien Mara et Élim, et puis le Sinaï qui est en bas. Et donc ils sont dans le désert de Sin. Et il nous est précisé quand est-ce qu'ils étaient à Élim et qu'ils en sont partis. Il nous est précisé que c'était le 15e jour du second mois après la sortie d'Égypte. En fait, entre la sortie d'Égypte et le... Oui, tu peux le remettre, merci. Entre la sortie d'Égypte, vous voyez là où ils traversent un bras de la mer Rouge, et puis Élim, il se passe un mois. Il y a un mois. Et on se retrouve au bout d'un mois à cet endroit. Et puis... pour descendre jusqu'au Sinaï, il nous sera précisé qu'ils ont mis 2 mois. Alors, là encore, c'est intéressant, c'est cette question de date, on est juste après un mois. On célèbre un mois depuis la mer Rouge, depuis la première Pâque, depuis la libération. Et le peuple, eh bien, va démarrer une entrée vraiment là, dans le désert. Alors, il y a plusieurs déserts. Il y a le désert de Sin, il y a le désert de Sinaï, il y a un autre désert, le désert de Chour, qui est un peu plus haut, etc. Et donc, le peuple va démarrer. Tu peux passer la diapo. Eh bien, c'est parti, j'ai noté, pour 40 ans dans le désert. Le peuple va vivre dans le désert pendant 40 années. Là encore, on va alterner entre les périodes où le peuple va se plaindre et où Dieu va faire quelque chose pour eux. Parce que pendant ces 40 ans, ils vont vivre des miracles, beaucoup de miracles. Alors, je vous ai mis un petit peu d'hébreu, là encore. Je vous ai dit le mot « désert » que Marie a si bien lu tout à l'heure. Il était difficile à dire le dernier mot, mais c'était celui-là, Midbar. Midbar, ça veut dire désert en hébreu. Et alors, vous savez qu'en hébreu, l'hébreu est fabriqué, j'allais dire, comme langue, sur des racines de mots de 3 lettres. Tous les mots en hébreu ont une racine de 3 lettres. Et autour de ces 3 lettres, selon comment elles sont accompagnées, eh bien, le sens des mots change. Pour expliquer un peu mieux, j'ai l'habitude de dire, ça existe aussi de temps en temps en français. Par exemple, si vous prenez le mot porter, admettons que c'est un mot, le mot porter, on le connaît bien. Si je rajoute un préfixe transporter, ça a un sens. Si je rajoute comme préfixe déporter, le sens change complètement. Etc. Vous voyez, si je mets âge comme suffixe, le portage des repas, on parle souvent de ça en médecine pour les familles. Donc c'est un petit peu comme ça que fonctionne l'hébreu. Et alors, le mot désert est intéressant parce que dans le mot désert, eh bien, le mot davar, vous reconnaissez un petit peu la racine des 3 lettres identiques, et davar, c'est la parole. Donc le mot désert, c'est le mot parole auquel on rajoute un préfixe, mi. Mi qui est un préfixe de provenance. Et en fait, en hébreu, le mot désert, c'est le mot, c'est le lieu d'où vient la parole. C'est étonnant quand même, hein ? Pour nous, le désert, on imagine des choses. Le juif qui parle, quand il parle du désert, il parle de l'endroit d'où vient la parole. Et ça nous rappelle tellement ce verset que j'ai mis en hébreu, que je ne vais pas vous lire, hein, mais qui est en français en dessous, le livre, le verset de qu'on connaît bien du prophète Osée, Osée au chapitre 2, verset 14. C'est Dieu qui parle d'Israël et qui dit « Je veux l'attirer et la conduire au désert, et là je parlerai à son cœur. » Dieu dit qu'il va conduire Israël au désert et qu'il va parler à son cœur. Alors, c'est un beau verset qu'on connaît bien en général, mais en hébreu, vous voyez, si vous regardez au-dessus, il y a vraiment un jeu de mots. Il y a deux fois les trois lettres de la parole et du désert. Donc, il y a un jeu de mots qui évoque qu'effectivement, le désert, c'est pas seulement un lieu aride, c'est pas seulement un lieu difficile, c'est pas seulement une période de doute, c'est pas une période où on sait plus où on en est, le désert. Le désert, c'est le lieu où Dieu parle. C'est le lieu où il parle. Souvenez-vous, Jésus au désert, non pas 40 ans, mais 40 jours. Le diable vient le tenter. Qu'est-ce que va dire, comment Jésus va répondre au diable? Il va lui dire, il est écrit. Dans ce lieu du désert, Jésus va prononcer la parole de Dieu. Il est écrit. Pour Jésus aussi, le désert, c'était le lieu de la parole. Il est écrit, il est écrit. Et ça me fait penser un petit peu aussi à ce verset dans l'évangile de Matthieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ça me fait penser aussi à ça parce que finalement Jésus nous invite quand on prie à nous mettre à part, à nous isoler, à nous faire notre propre petit désert. Avec plus de bruit, on est importable, avec plus les soucis de la famille, plus les soucis qui existent dans la vie, etc. On se crée notre désert, et là, on est avec notre Père. Et on lui parle, et il nous parle. C'est joli, je trouve. Ça nous parle sur nos déserts aussi. On y reviendra. Et alors, cet épisode-là de 2 mois depuis Élim jusqu'au Sinaï, c'est vraiment le prototype de tout ce qu'on va retrouver dans les chapitres qui vont suivre. Jusqu'à la fin de l'Exode, on va retrouver tout le temps ces grands principes qu'on trouve déjà dans ces 3 chapitres 16, 17, 18. Et les 3 principes que j'y vois, ce sont les 3 P. Providence, protection, pédagogie. Providence, protection, pédagogie. Alors, on va d'abord voir la providence. La providence, c'est un mot qui veut dire que Dieu pourvoit. C'est un mot magnifique. C'est un mot qui veut dire que nous, on est un petit peu dans le brouillard dans la vie, on ne voit pas plus loin, j'allais dire, de notre nez. Mais Dieu, lui, voit tout, sait tout, contrôle tout, dirige tout. Il est au-dessus de tout, il connaît tout. Et donc, il n'y a pas de hasard pour Dieu. Pour nous, le hasard existe. Pour Dieu, il n'y a pas de hasard. Et c'est la providence. La providence, c'est ce que certains appellent le hasard. C'est-à-dire, les choses arrivent, et puis, comme par hasard, c'est vraiment la personne qu'il fallait au moment qu'il fallait, ou la parole qu'il fallait au moment qu'il fallait, etc. Dieu dirige, c'est sa providence. On a tous entendu ces témoignages d'hommes, de femmes de Dieu qui sont dans la misère, qui sont dans la difficulté, qui ont besoin d'une somme d'argent et qui prient simplement à Dieu, qui s'ouvrent à personne d'autre et à Dieu. Et puis, Dieu met à cœur à un chrétien d'aller mettre la somme dans la boîte aux lettres. C'est la providence de Dieu. Dieu pourvoit. Et alors, dans ce périple de 2 mois, Dieu va pourvoir. On le voit par exemple avec la manne. Les Hébreux se plaignent. On n'a rien à manger. Au moins en Égypte, on avait des légumes. Il y avait des poireaux, des oignons, il y avait tout ce qu'il faut. Là, on n'a rien. Et bien Dieu va pourvoir. Le Dieu de providence va pourvoir. Il va faire descendre du ciel la manne. Tous les jours, la manne va tomber du ciel. Cette manne là aussi qui a fait couler beaucoup d'encre. On ne sait pas trop à quoi ça ressemblait finalement, parce que quand on lit les descriptions, la Bible, c'est tantôt une espèce de givre, tantôt une espèce de coriandre, enfin, en tout cas, la manne tombait du ciel tous les jours, et elle donnait à manger aux Israélites. C'était un aliment qui devait être bien complet. C'est le genre de complément alimentaire, vous savez, qu'on a aujourd'hui avec la bonne dose de glucides, la bonne dose de protéines, la bonne dose de fibres, il y avait tout. Voilà. Et Jean, l'évangile, dans l'évangile de Jean, on va lire « Je suis le pain de vie ». Jésus va reprendre à son compte cette notion de manne. « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Dieu a pourvu à notre nourriture spirituelle en Christ. Et tout à l'heure, on partagera la scène. Celui qui mange mon corps. Dieu a pourvu à cette manne. Et pour les Israélites, il a pourvu à la manne. Alors les Hébreux... Et on se mettrait à leur place, imaginez manger le même repas tous les jours. Moi, je bénis Dieu parce que j'ai une épouse qui me change le repas tous les jours. Le matin et le midi, c'est pas, je ne mange pas la même chose. En général, le plus souvent. Sauf si je laisse des restes. Mais imaginez quand même, tous les jours, la manne, je voulais. Alors, ça avait bon goût, ça avait une espèce de goût de miel, semble-t-il, etc. Mais tous les jours, ne manger que ça, il y avait quoi râler. Oui, en Égypte, on avait de la viande aussi. Et Dieu, là, va faire un peu d'humour. Vous voulez de la viande, vous allez en avoir. Et il envoie un vent qui amène des cailles. Et il nous est dit qu'il y en avait sur un mètre de hauteur. Alors, les rabbins interprètent ça comme disant non, mais en fait, il n'y avait pas un mètre de caille de hauteur. C'est qu'en fait, la caille, elle vole à un mètre. Et à un mètre de hauteur, il y avait partout, ça volait de partout. Et ils vont manger des cailles, ils vont manger des cailles pendant un mois jusqu'à ne plus pouvoir, jusqu'à en avoir la nausée. Vous savez, comme quand on sort des fêtes, là, il y a Noël, puis après il y a le jour de l'an, puis après il y a la galette des rois, puis après, ça n'arrête plus, là. Et à la fin de janvier, on se dit, oulala, dry January, hein, il faut. Ben là, c'était un petit peu ça. Dieu leur donne de la viande, mais ils n'en peuvent plus après. Dieu parfois répond à nos prières de façon surprenante, hein, ou à nos plaintes de façon surprenante. L'épisode des cailles, contrairement aux autres épisodes que je vous note là, la manne, puis ceux dont on va parler après, l'épisode de la caille, c'est le seul épisode qui n'est pas repris dans le Nouveau Testament. Logique, on entend ce que je viens de dire juste avant. Hein, c'était une surabondance, c'était un besoin, j'allais dire, plutôt charnel, même si on le comprend, et qu'à leur place, on aurait fait exactement la même chose. Dieu va pourvoir la manne, Dieu va pourvoir les cailles, Dieu va pourvoir l'eau, et dans le désert, il faut pourvoir à l'eau. Et le Nouveau Testament le reprend dans 1 Corinthiens 10, il nous est dit, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Christ. Souvenez cet épisode du rocher, c'est dans nos chapitres là. Le peuple se plaint, donc à Marat, Moïse va purifier l'eau en jetant un bâton. Puis plus loin, c'est toujours, ils sont toujours à sec, il n'y a pas d'eau, il n'y a même pas une eau, une oasis avec de l'eau au saumâtre. Même pas. Il n'y a plus rien. Donc Dieu va dire, mais écoute, tu vois ce rocher, prends ton bâton, tape le rocher, et une source sort. Et Dieu a pourvu à l'eau, dans le désert. Et de la même façon, ben, le Nouveau Testament nous reprend. Dieu a pourvu aussi, pour notre breuvage spirituel. Nous pouvons boire. Jésus a dit, celui qui boira de cette eau, la Samaritaine aura encore soif. Celui qui boira de l'eau, je lui donnerai. Eh bien, lui n'aura plus jamais soif. Amen. Donc Dieu pourvoit la manne, Dieu pourvoit aux cailles, Dieu pourvoit à l'eau, et Dieu pourvoit même au repos. Extraordinaire. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que la manne tombait tous les jours dans le désert pour nourrir les Israélites. Mais c'est pas vrai. Elle tombait pas tous les jours. Le sixième jour, le vendredi, Yom Shishi, la manne tombait, mais tombait en double. Et alors que les autres jours de la semaine, les Israélites ne pouvaient prendre qu'une partie, enfin qu'une portion de manne, celle du jour, que s'ils en prenaient pour plusieurs jours, elle pourrissait. Là, le vendredi, il en tombait le double. Ils en récupéraient le double, qu'ils ne pourrissaient pas, et ils en avaient pour le vendredi et pour le samedi, pour Shabbat. Et donc Dieu va pourvoir au repos. Même dans le désert, Dieu pourvoit au repos. Alors j'ai noté sur la slide qu'il pourvoit au repos et qu'il pourvoit à la Torah. Alors là, comme vous êtes des bons lecteurs de la Bible, vous allez dire, non, mais Joël, là, tu dérailles. On est dans les chapitres 16, 17, 18. La Torah, le don de la parole de Dieu, le don de la loi, c'est au chapitre 20. C'est sur le Sinaï. Moïse monte, il a les éclairs, le feu, etc. Il ressort avec les tables de la loi et il commence à raconter tout ce que Dieu lui a dit et toutes les lois que... toutes les lois qui sont données pour Israël. Et en fait, non. Quand on lit effectivement le texte, on va peut-être le prendre. Je vais faire un peu de place. Au verset 5, donc du chapitre 16, de l'Exode, il nous est dit que Dieu va donner la manne en quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le mot loi, là, c'est le mot Torah. Alors le mot Torah, on traduit souvent par loi et c'est en partie vrai, en partie incomplet. Le mot signifie vraiment enseignement. Enseignement, c'est-à-dire ce que Dieu dit qu'il faut faire. Voilà. D'où on dit que c'est une loi, mais c'est beaucoup plus large. C'est un enseignement. Aussi au verset 23-25. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne se mit point des vers. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du Shabbat, du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans ma campagne. C'était un enseignement que Dieu avait donné à Moïse, et ça donnait, c'était comme une loi pour eux. Donc l'institution du septième jour, du jour de repos, ne date pas du Sinaï. Ça date d'avant. Donc Dieu a commencé à donner des lois avant. Et je voudrais qu'on lise aussi un petit verset, on retourne dans la Genèse, au chapitre 26. C'est un petit passage que... Je pense qu'on oublie souvent quand on est dans notre mentalité chrétienne, et c'est logique. Genèse 26, verset 4-5. Il nous est parlé d'Abraham. On peut lire même à partir du verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi cette postérité sera bénie? Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. C'est intéressant cette phrase. Nous, on a l'habitude de dire, et c'est vrai, le Nouveau Testament le dit, Abraham, il a cru, simplement. C'est comme ça qu'il a reçu la justice de Dieu. Et c'est vrai. Mais il avait aussi reçu déjà. Comme si ce n'était pas suffisant de dire la loi. Dieu dit, il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Je crois qu'il n'y a pas un mot de plus qu'on peut trouver pour dire que Abraham avait reçu de Dieu les commandements. C'est cette fameuse tradition orale qui a perduré pendant des siècles et des siècles, qui a été ensuite rejointe par l'Écriture. Mais cet enseignement oral, cette tradition orale, qui existait toujours du temps de Jésus, qui a été formalisée ensuite par le Talmud, qui était en discussion à l'époque de Jésus. On nous dit que le Shabbat, il faut faire comme ci, mais on fait comme ça, etc. Donc Dieu a pourvu, dans le désert, Dieu a pourvu la nourriture, la boisson, le repos et ce qu'il faut faire. Dieu est Dieu de la providence. Et dans nos déserts, Dieu aussi nous donne sa providence. Deuxième point, le deuxième P, la protection. Un des épisodes dans ces deux mois, c'est qu'un jour, près d'un endroit qu'on a vu tout à l'heure, Amalek va attaquer Israël. Sans raison valable évidente, Amalek, donc c'est le peuple amalécite avec son roi Amalek, qui va attaquer Israël. Et le chapitre 17, donc, qui est dans notre texte, du verset 8 au verset 14, il nous est dit « J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Amalek, vous savez, c'est cette bataille importante où Moïse monte sur la hauteur, et puis quand il a les bras levés, eh bien le peuple est victorieux. C'est la Bible qui se dit toute seule. Il y a des miracles, Charles, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous avez un besoin, vous allez le voir après le culte. Quand Moïse avait les bras levés, Josué et l'armée avaient le dessus sur Amalek, et quand les bras fatigués de Moïse, eh bien, c'est Amalek qui avait le dessus sur Israël. Et alors, vous vous souvenez de deux personnes qui sont venues tenir les bras, c'était qui ? Aaron et Hur. Est-ce que vous savez qui est Hur ? Voilà, c'est le fils ou le petit-fils de Caleb. Et donc, voilà, la victoire a lieu sur Amalek. Et je me souligne cette protection de Dieu parce que Amalek va devenir quelque chose de super important dans toute l'histoire de l'Écriture et même l'histoire tout court. Amalek, c'était un descendant d'Ésaü. Ésaü, vous savez, le frère de Jacob, qui lui en voulait parce qu'il avait volé à bénédiction. Donc il y a toujours eu de l'inimitié entre Jacob et Ésaü. Et le descendant d'Ésaü, Amalek, a encore l'inimitié vis-à-vis des descendants de Jacob, Israël. Et donc il y a cette bataille qui se fait. Et cette bataille, on va la retrouver très souvent dans toute l'histoire. J'ai noté, vous vous souvenez du livre bien plus tard, hein, Mardoché, livre d'Esther, Mardoché et le fameux Aman. Aman qui veut faire un génocide, là aussi qui veut attaquer Israël, mais qui prévoit le génocide complet. Vous vous souvenez, je ne vais pas vous raconter tout le livre d'Esther. Et ce Aman, c'était un descendant d'Amalek. Et ce descendant d'Amalek, par Agag, il nous est dit qu'il était un Agagite, descendant de Agag, le roi des Amalécites, que Saül avait épargné, contrairement à l'ordre de Dieu. Vous vous souvenez, peut-être aussi de cet épisode, hein, où il y a une lutte, et où, par sa trop grande compassion, génération, donc j'allais dire, Saül, le roi d'Israël, épargnait Agag, le roi des Amalécites, et donc le roi va avoir une descendance. Dans cette descendance, il y a Aman, et Aman qui va essayer de faire exterminer le peuple juif en exil en Perse, quand ils étaient en Perse. Et il nous est dit que Aman a été pendu avec ses 10 fils. La Bible nous précise que Aman a été pendu avec ses 10 fils. Et depuis, pour célébrer cette grande délivrance, de nouveau, le peuple juif a institué une fête qui est la fête de Pourim, que vous retrouvez dans la Bible, et qui est célébrée tous les ans, c'est au printemps. Et encore aujourd'hui, le peuple juif célèbre Pourim pour célébrer, se souvenir de cette grande délivrance du peuple face à Aman. Et en fait, il y a une guerre perpétuelle entre Israël et les descendants d'Amalek. Les descendants physiques ou les descendants, entre guillemets, spirituels. Et Amalek est devenu le symbole et l'archétype de tous les antisémites, de tous ceux qui veulent détruire le peuple d'Israël. Et au chapitre 17 de l'Exode, dans nos chapitres, au verset 14, Dieu va dire à Moïse, écris. Écris. Et alors j'ai recherché si Dieu avait déjà dit à Moïse d'écrire dans le passé. Et en fait, jamais. C'est la toute première fois que Dieu va dire à Moïse, ça, c'est suffisamment important pour que tu l'écrives. Et la première chose que Moïse a écrite, c'est l'histoire d'Amalek. Pourquoi ? Parce que c'est tellement important. Parce que ce n'est pas juste une petite bataille, comme il y en a eu d'autres après dans l'histoire d'Israël, des Hébreux. Mais c'était quelque chose de fondateur, de fondamental, qui allait se répéter dans l'histoire. Et donc Dieu dit à Moïse, écris, écris. Bien des années après, il y a la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, 6 millions de Juifs assassinés, un désir, comme pour Aman, de détruire complètement le peuple juif de façon systématique. Et il y a le procès de la victoire, le procès de Nuremberg. Et à Nuremberg, il y a 24 criminels nazis qui vont être jugés à Nuremberg. 11 d'entre eux vont être condamnés à la pendaison. Et la veille de l'exécution, il y a Göring, de triste mémoire, qui se suicide, prend du cyanure avant, parce qu'il ne veut pas mourir pendu par la main de la justice. Donc il préfère mettre fin à ses jours. Et donc il reste 10 condamnés qui vont être pendus le lendemain. Et dans ces 10 condamnés, il y a un certain Julius Streicher, qui est un responsable nazi, mais qui était aussi un érudit, c'était un enseignant. Il connaissait bien l'histoire, il connaissait bien la philosophie, il connaissait bien tout ça. Et au moment où il monte sur la potence pour être pendu, il va être pendu, il crie Pourim Fest. Alors je le dirais par l'allemand, ça, 1946. C'est étonnant. Et ça, c'est rapporté dans le New York Herald Tribune du 16 octobre 1946. Cet homme qui connaissait l'histoire a fait un rapprochement entre les 10 fils d'Aman pendus à Pourim et les 10 pendaisons. Il a fait ce rapprochement entre ce désir d'Aman et du peuple perse d'éradiquer Israël et avec ce qu'eux ont fait. Et avant de monter, avant d'être pendu, il crie, c'est comme Pourim. Pourim se répète. Pourim se répète. Je voulais le signaler pour voir combien l'histoire parle. Et combien Dieu sait aussi à l'avance les choses. Il dit à Moïse, écris. Écris cette histoire d'Amalek, parce que c'est pas fini. Ça va revenir. Et dans ces temps, aujourd'hui, malheureusement, de recrudescence antisémitique, on peut y penser. Donc, le peuple de Dieu a un ennemi, a des ennemis, mais Dieu protège son peuple. Tous ceux qui se sont levés contre le peuple de Dieu, c'est eux qui sont tombés à la fin. Et le peuple de Dieu est toujours là. Et j'élargis justement en disant le peuple de Dieu, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes l'Église. Nous sommes greffés sur Israël, nous dit Paul. Et donc, nous, ces promesses de protection, elles sont pour nous. Et combien il y a des persécutions en ce moment dans le monde, combien il y a de Haman dans le monde qui essaie de détruire l'Église aujourd'hui. Lisez les rapports de portes ouvertes, ça fait peur. Et pourtant, le peuple de Dieu est indestructible. Alors oui, il y en a qui malheureusement souffrent et perdent la vie, mais le peuple est indestructible. J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. C'est une promesse. Il n'y aura pas toujours des Amalek. Il y a un jour où le grand Moïse, avec les bras étendus, qui s'appelle Jésus, viendra, et Amalek, qui s'appelle peut-être à ce moment-là Antichrist ou autre, eh bien, sera détruit. Et il y aura un temps où il n'y aura plus d'Amalek. Alléluia. Et puis dans le désert, à part la providence et la protection de Dieu, il y a la pédagogie. Souviens-toi. Souviens-toi, c'est deux petits mots qui reviennent sans cesse. Et d'un peuple juif notamment qui reviennent sans cesse. Par rapport à la Shoah, par rapport à la culture. Et ça date de la période de l'Exode. Souviens-toi. Je l'ai déjà dit, c'est la première fois que Dieu dit à Moïse, écris. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Écris, Moïse. Et c'est grâce à ça qu'on a le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible qui nous viennent de Moïse. Écrit pourquoi ? Pour la transmission. Quand il lui dit d'écrire l'histoire d'Amalek, il dit c'est pour que Josué s'en souvienne. Et Josué, c'est le successeur de Moïse, qui à son tour va retransmettre à d'autres, etc., etc., de génération en génération. Dans le cadre de la pédagogie, Moïse aussi a besoin d'une pédagogie. Pourtant, il est en lien direct avec Dieu. Et Dieu lui parle d'une façon incroyable, face à face, bouche à bouche, nous dit l'Écriture. Et pourtant, il a besoin aussi d'une pédagogie de son beau-père. Jéthro, son beau-père, qui se convertit, qui découvre le Dieu d'Israël, et qui va donner des conseils. C'est dans cette... Dans ces chapitres-là, vous voyez combien ils sont riches, ces chapitres. C'est dans ces chapitres qu'on a cet épisode où Moïse dit, ben justement, je donne les lois au peuple, il me visite du jour au matin, et du matin au, du soir au matin, et du matin au soir, presque. Et là aussi, il est dit, et je leur donne les lois, les commandements, etc. Mais ils vont être donnés de chapitres plus loin. Non, il y avait déjà ces commandements qui étaient déjà présent, en tout cas certains. Et Jéthro lui dit, mais tu es fadin, mon pauvre, tu vas mourir. Délègue. Donne des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, etc. Délègue. Et que ne reviennent vers toi que les propos, que les questions vraiment importantes. Et donc, Moïse va écouter. Il y a la pédagogie. J'ai entendu certains chrétiens dans le passé, c'est pas le cas ici, mais j'ai entendu certains chrétiens dans le passé qui disaient « Ah, moi Dieu m'a dit, je suis en ligne directe, un peu comme Moïse. Hein. » Heureusement que Moïse n'a pas été présomptueux, mais qu'il a écouté le beau-père. Bon, c'est pas la belle-mère, mais des fois c'est la belle-mère aussi, hein, qu'il faut écouter. On n'est pas toujours en ligne directe avec Dieu. Écoutons-nous les uns les autres, écoutons les anciens, écoutons ceux qui sont nos aînés dans la foi. Écoutons comme Moïse, le beau-père, qui a de l'expérience. Il ne connaissait peut-être pas toute la Bible, elle n'était pas encore écrite. Il venait juste de se convertir, de découvrir le Dieu d'Israël, mais il avait l'expérience de la vie. Et parfois, Dieu utilise même des non-chrétiens pour nous parler, pour nous donner une parole de sagesse. Dieu a même utilisé un âne une fois dans la Bible, hein, vous vous souvenez? Donc, écoutons la pédagogie de Dieu, laissons-nous, enseigner. Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant toute la route, lors de votre sortie d'Égypte. Ça, c'est dans le Deutéronome qui nous a dit ça. Amalek avait attaqué les plus faibles. Donc j'y reviens pas, j'en ai déjà parlé, mais là encore, souviens-toi, apprends. En fait, ce qu'on voit dans ces chapitres, c'est qu'il y a un combat spirituel. Amalek, au-delà d'une bataille, c'est un combat spirituel qu'on va retrouver tout au long de l'histoire. Et on a besoin d'apprendre. Et le Nouveau Testament nous parle beaucoup de ce combat spirituel. Tenir ferme dans le mauvais jour. Tenir ferme dans le mauvais jour. Tu peux passer à la slide suivante. C'est ma conclusion. Ces trois chapitres sont vraiment hyper importants et on va retrouver leur enseignement, comme j'ai dit, tout au long de l'Exode et tout au long de l'histoire. Sur notre chemin terrestre, dans ce monde qui est un peu comme un désert, avec des épreuves, des ennemis, des besoins, souvenons-nous des trois P. La providence. C'est Dieu qui est ma source. Quand je suis dans le désert, c'est le lieu de la parole. Dieu va me parler. Il va pourvoir à une solution. Il va me guider. Dieu est ma source. Tout me vient de lui. La protection. Ailleurs, il est écrit, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort celui qui me garde. Parfois, on ne le voit pas. Élie, dans le désert, était complètement dépressif. Mais Dieu m'a envoyé des corbeaux pour le nourrir. Extraordinaire. Et puis la pédagogie. Tous les jours, je suis à son école. Tu peux être chrétien depuis 15 jours. Tu peux être chrétien depuis 15 ans, puis bien plus. Tous les jours, tu es encore à son école. Tous les jours, il y a des richesses à apprendre. Pourquoi ? Pour que toute la gloire lui revienne. Amen. Juste une parenthèse, si tu peux mettre, voilà la dernière. On a fait le message un peu plus tôt. Ce matin, parce que je dois partir, parce qu'à midi, je suis invité à un événement qui a lieu à Nîmes. C'est la mise en place, la remise en place d'une statue, d'un monument à l'effigie de certain Bernard Lazare. Bernard Lazare, ça ne vous dit peut-être rien, vous êtes allé souvent au Jardin de la Fontaine, il restait une petite plaque avec un petit mot. Et Bernard Lazare, c'était un Nîmois, journaliste juif. Et ça a été le premier défenseur du capitaine Dreyfus. Vous savez, l'histoire du capitaine Dreyfus, cet officier juif français qui a été accusé et condamné à tort, qui a été condamné. Et puis, on connaît tous ce fameux J'accuse de Zola. Le J'accuse de Zola, il vient en fait de Bernard Lazare. Ce journaliste nîmois, moins connu, mais qui a été en lien, qui a démarché et cassé la tête, j'allais dire, à Zola, pour lui dire, cet homme est innocent, s'il est condamné, c'est parce qu'il est juif, il est innocent. Et on a des textes de Bernard Lazare, et il y a notamment un des textes où il dit, j'accuse, tatata. Et par la suite, donc Zola va reprendre ce j'accuse, sur la première page d'un journal en France. Et donc, il y avait un monument qui avait été fait par la ville de Nîmes sur Bernard Lazare. Et ce monument a été démonté et cassé pendant la dernière guerre, logique. Il faut savoir que sur cette statue, il y avait un nez. Ce nez avait été cassé et ce nez servait de presse-papier à Maurras. Maurras, qui était un écrivain antisémite, et il se servait de ce nez pour... Ils sont intéressants, tout ça. Hein. Et donc, il y a une association qui s'est montée pour dire, mais c'est pas juste, il faut qu'on redonne sa place à Bernard Lazare à Nîmes. Et donc, il y a tout un... Bon, je vous la fais court, hein, ça dure depuis quelques années. Et donc, tout à l'heure, à midi, dans 10 minutes, c'est pas possible, voilà... Il y a une grande cérémonie avec le préfet, toutes les autorités, etc. Je suis invité à participer. Donc voilà pourquoi je me sauve vite sans vous embrasser.
jeu, il a fait la partie 1. J'ai hâte d'entendre la partie 2. Je peux rappeler le manche, s'il vous plaît.